Vous écoutez Radio Arango. You can run on for a long
time. Run on. I love you so. Hey! Restez sur Arango. Vous allez suivre en direct l'émission Une heure avec en compagnie d'Armel et Laurence.
Bonjour à tous, donc vous êtes sur Radio Arango et aujourd'hui l'émission Une heure avec Luc Van Lerberg. Bonjour Luc.
Bonjour à tous, bonjour Armel.
Alors je te reçois aujourd'hui, on va aborder deux points. Ton nouveau site internet, ta nouvelle carrière, ça s'appelle Carrière en main. Ouais. Nouvelle, non, tu le faisais déjà, ouais. Mais on va en parler après. Et un autre aspect de ton travail et de ta passion surtout, c'est l'écriture.
Absolument, les romans d'Heroic Fantasy.
Bon, super, tu te présentes ? De où tu viens ? Quel est ton parcours ?
Alors, j'ai 20 ans de travail, d'expérience professionnelle dans le recrutement, le développement des talents dans les entreprises, la stratégie ressources humaines. Au travers de trois entreprises différentes, LVL, qui a été mon premier cabinet de recrutement, Solutions et Potentiels, qui était un cabinet de reclassement professionnel, et j'ai lancé il y a 2 ans un nouveau cabinet donc de développement RH qui s'appelle Carrière en main, avec un programme qui se nomme Carrière en main et qui est destiné aux particuliers qui sont en poste ou en recherche d'emploi et qui ont envie de revoir leur plan de carrière et d'aller vers leur job et leur entreprise de leur rêve.
Vaste programme. Et tu as toujours fait ça ?
Alors, j'ai commencé une thèse en sciences politiques, que je n'ai pas terminée pour des raisons financières, puisqu'il fallait travailler pour pouvoir manger. Et non, donc je suis parti dans les ressources humaines assez rapidement. J'ai quand même dirigé 2 centres de formation. Donc le fil conducteur de ma carrière, c'est l'humain, puisque recrutement, reclassement professionnel, formation, tout ça, ça tourne autour du développement de l'humain dans la carrière, dans la réussite professionnelle.
Ok, alors après cette présentation, on va rentrer dans le vif du sujet sur cette première partie, en tout cas d'émission, et la première partie de ton activité. Mais je te propose une petite pause musicale. Qu'est-ce que tu nous as concocté ? Premier titre.
Alors, premier titre, la reprise de Led Zeppelin, Cashmere, par le London Symphony Orchestra, l'orchestre de Londres, que je choisis pourquoi ? Parce que, bon, Cashmere, c'est une musique mythique. Tous les amoureux du rock connaissent et, je pense, la passent en boucle régulièrement. Mais la reprise par le London Symphonic apporte des textures particulières, pas simplement dans le refrain, mais aussi dans la montée en puissance qui amène vers le refrain.
Eh bien, on écoute. We'll be right back. Magnifique, effectivement, magnifique reprise de ce Cachemire qu'on connaît évidemment bien, surtout nous ici, puisque nous avons une école de musique et qu'on le joue régulièrement. Mais c'est vraiment une très très belle version. Alors on va rentrer dans le vif du sujet si tu veux bien, et tu vas nous parler de ton programme Carrière en main. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, pour expliquer le programme Carrière en main, il faut que j'explique l'origine de ce programme Carrière en main. Depuis maintenant 15 ans, je réalise avec de nombreux salariés ce qu'on appelle des bilans de compétences ou des bilans d'évaluation professionnelle. L'objectif étant de se poser pendant une vingtaine d'heures avec une personne pour regarder à la fois où elle en est dans sa carrière et quelles sont les perspectives, les potentielles carrières auxquelles elle pense, mais aussi auxquelles elle ne pense pas. Et j'ai toujours été un petit peu frustré à la fin de ces bilans. Pourquoi ? Parce qu'on met en place un nouvel objectif de carrière, qui peut être une création d'entreprise, qui peut être un nouvel emploi. Et finalement, on met en place théoriquement un processus, une stratégie pour atteindre cet objectif, mais le bilan s'arrête là. Les financements publics s'arrêtent à la fin de ce bilan, à la fin de ces 20 heures. Et donc, très régulièrement, les personnes que je suivais me rappelaient en me disant « Oui, mais je suis bloqué à tel endroit dans ma stratégie. » Mais évidemment, tout ça n'était pas financé. Donc, j'ai décidé de mettre en place un programme complet d'accompagnement des personnes vers la réussite, leur réussite professionnelle. D'où ce titre « Carrière en main », c'est-à-dire le fait de prendre sa carrière en main. Ce processus dure une année, voire plus. Et l'objectif, c'est de commencer par un bilan de compétences complet qui permet véritablement de se poser pendant un mois, deux mois, donc autour d'une vingtaine d'heures avec moi sur un nouvel objectif professionnel à atteindre. Ensuite, on met en place la stratégie et j'accompagne dans la réussite de cette stratégie. C'est-à-dire que si on est dans une création d'entreprise, eh bien on a un programme de création d'entreprise qui permet d'accompagner le créateur d'entreprise. Et si la personne souhaite retrouver un emploi, eh bien, j'accompagne dans tout le coaching de techniques de recherche d'emploi, l'ensemble des coachings liés aux différents entretiens, puisque lorsque l'on cherche un emploi, on a parfois 2, 3, 4 entretiens différents avec des personnes différentes, et il faut se préparer à chaque fois de façon particulière. Mm-hmm. J'accompagne également dans la négociation du contrat et dans la prise de poste, puisque mon accompagnement va jusqu'à la fin de la période d'essai. Autrement dit, lorsque vous rentrez dans un poste, vous êtes devant des choses nouvelles, devant un management nouveau, devant des collègues nouveaux. Et parfois, il y a des interrogations, notamment liées au nouveau mode de management. Et j'accompagne là-dedans la personne. L'objectif étant qu'elle trouve l'entreprise et le job de ses rêves.
D'accord, c'est quand même extrêmement complet. C'est une prise en main qui est, j'allais dire, géniale, parce que c'est quand même bien d'être accompagné, de se sentir accompagné, de se sentir porté. Parce que tout faire tout seul, c'est très, très compliqué.
Donc, oui. Alors surtout lorsqu'on passe par mes services, évidemment, c'est parce qu'on sent que dans sa carrière, on est en panne et soit on a peur du marché, ce qui peut être le marché de l'emploi, mais qui peut être aussi le marché de la création d'entreprise, parce que c'est, je rappelle qu'on peut accompagner sur ces deux domaines. Mm-hmm. Mais si on parle uniquement, par exemple, du marché de l'emploi, aller vers une nouvelle entreprise ou vers un nouveau job que l'on n'a jamais peut-être réellement complètement pratiqué, ça peut faire peur. Et donc, le fait d'être accompagné, d'être rassuré, de savoir mettre en avant ses points forts, ses compétences, les trésors qu'on peut amener à l'entreprise. Tout ça, ce sont des éléments qui rassurent la personne et en rassurant, qui lui permettent d'atteindre son objectif parce qu'elle se sent sûre d'elle, en plénitude d'une certaine manière et en confiance par rapport à son potentiel. Puisqu'évidemment, le but de tout ça, c'est d'aller vers un job pour lequel on est fait. L'idée, c'est d'aider la personne à lever ses freins, ses inquiétudes, et de la mettre en posture et en position de pleine réussite.
D'accord. Mais alors, comment ça se passe concrètement ? Par exemple, demain, je change de carrière, je ne fais plus de radio ni de musique, je décide, une réorientation totale. Comment je fais ? Je t'appelle, je passe par ton site internet, qu'on rappelle, s'appelle carrière-en-main.com. Voilà, ouais. En duo, carrière-en-main.com. Voilà. Comment ça se passe ? Et puis ensuite, une fois qu'on a pris contact avec toi, comment ça se passe concrètement ? Qu'est-ce que tu vas faire ?
Alors, le programme Carrière en main commence forcément par une rencontre qui se fait la plupart du temps par les nouvelles technologies, puisque vous pouvez me contacter de partout en France, je travaille par Zoom, et donc on aura une première rencontre, que vous m'envoyez un mail ou que vous m'appeliez par téléphone, puisque les coordonnées sont sur le site, donc vous pouvez tout à fait me contacter. Je vous réponds et on a une première rencontre, de prise de connaissance et de première étude de votre problématique. L'objectif étant qu'à l'issue de cette première rencontre, je puisse vous dire si je peux vous aider ou pas. Si je ne peux pas vous aider, bah, je vous aiderai à trouver la personne qui peut vous aider. Si je peux vous aider, eh bien, on va mettre en place donc, le programme Carrière en Main.
Alors, je te coupe juste deux petites secondes. Qu'est-ce qui fait que tu ne pourrais pas m'aider, par exemple? Est-ce que c'est un domaine? Est-ce que c'est...
Oui, alors, si vous êtes en situation de burn-out, de dépression professionnelle, je ne peux pas vous aider pour une raison très simple, c'est que mon objectif, c'est de vous aider à trouver votre voie. Mais pour trouver sa voie, il faut être serein quant à l'envie de trouver cette voie. Mmh. Lorsqu'on est en situation de burn-out ou de stress professionnel ou de dépression, on est centré sur soi-même et pas sur l'objectif du futur. Donc, pour ça, il y a des psychologues ou psychologues du travail qui peuvent vous aider. Mais si par contre vous êtes dans un travail dans lequel vous sentez que vous avez fait le tour, que vous vous ennuyez, que ça fait 10 ans que vous faites les mêmes choses et que vous avez besoin de changement, donc vous avez le souhait, peut-être même l'idée de faire 1-2 jobs, ou vous avez peut-être un objectif en tête, mais vous ne savez pas si cet objectif est réalisable, alors là, je peux vous aider.
J'ai une question, je ne sais pas si elle est pertinente ou pas, mais par exemple, si je te dis, moi, demain, écoute, Luc, je veux absolument travailler dans une boucherie ou une boulangerie. Toi, tu sens que, évidemment, tu me connais, tu sais que je fais de la musique et que c'est ma passion. Ce n'est pas parce que j'ai envie de le faire que je vais m'épanouir là-dedans, que ce n'est pas ma voie. Mmh. Est-ce que là-dessus aussi, tu peux m'aider ? Réorienter ?
Oui, bah, c'est l'objectif du bilan. C'est-à-dire que dans un bilan, j'apprends à vous connaître. On travaille les moteurs de vie, ce qu'on appelle les moteurs de vie, ce qu'on pourrait appeler passion, mais... Les moteurs de vie, ça va au-delà des passions, c'est-à-dire c'est ce qui fait que le matin, vous vous levez et vous savez exactement pourquoi vous vous levez. C'est aussi ce qui vous fait vibrer, donc c'est là où ça rejoint un petit peu les passions. Mm-hmm. Mais on travaille en fait l'ensemble de ces éléments et le but, c'est de créer une véritable coordination entre l'objectif et ce que vous êtes. Donc, si ce que vous êtes ne correspond pas à votre objectif, et je vais vous prendre un exemple très clair dans quelques instants, eh bien, je vais vous le dire. On va travailler ensemble et tout doucement, je vais vous expliquer pourquoi. Et le but, c'est que vous preniez conscience que votre objectif n'est pas cohérent avec ce que vous êtes. Et après, le but, ça va être de reconstruire un objectif cohérent. Mm-hmm. Et je vais vous prendre un exemple. J'ai travaillé, il y a de cela maintenant 2-3 ans, avec une personne qui souhaitait créer son entreprise. Elle avait absolument envie de créer son entreprise. Bon, très bien. On a regardé ce que ça voulait dire, créer son entreprise. Et on s'est rendu compte d'une chose ensemble, c'est que le stress lié aux chiffres lorsqu'on crée son entreprise, ce n'était pas un stress qu'elle voulait accepter. Alors c'est important de dire le mot vouloir accepter, parce que ce n'est pas qu'elle ne s'en soit pas capable. L'objectif, l'idée, ce n'est pas une question de capacité. C'est est-ce que dans mon quotidien, j'accepte l'idée d'avoir une échéance de chiffre d'affaires très court à gérer ? Et cette idée-là, si on ne veut pas la gérer, il ne faut pas créer son entreprise. Donc, on en est venu à la conclusion qu'il ne fallait pas créer son entreprise. Mais ce n'est pas grave, parce que lorsqu'on ne crée pas son entreprise soi-même, on peut tout à fait se coller à des créateurs d'entreprises qui, eux, seront tout à fait heureux d'avoir les compétences qu'amène la personne pour se développer. Et en fait, ce qui est très rigolo, c'est que la personne avec qui j'ai travaillé ça, on a trouvé en fait un créateur d'entreprise pour qui il manquait justement les compétences de cette personne et ils sont devenus associés. Donc, elle n'a pas créé seule l'entreprise, donc ce n'est pas elle qui gère le problème du chiffre, mais elle apporte sa créativité dans la création des produits et finalement, elle est créateur d'entreprise sans avoir les problématiques du créateur d'entreprise.
C'est ça, c'est une belle histoire, ça. Mmh. D'accord. Et donc, une fois que tu as passé donc, ce bilan et que tout est, j'allais dire, opérationnel, en tout cas OK pour tout le monde, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, il se passe 2 choses. Soit vous voulez créer votre entreprise, et dans ce cas-là, on va rentrer dans un programme avec Claire Labbé, la stratégie du bonheur, donc qui est donc partenaire de ce programme, et on va vous amener à définir mieux votre projet, on va vous former à tous les aspects du créateur d'entreprise, c'est-à-dire tous aux aspects gestion, aux aspects juridiques de la création d'entreprise, le business model, et puis les produits, comment vous allez, la stratégie en fait, de vente que vous allez mettre derrière votre création d'entreprise. Mm-hmm. Et donc ce programme-là va durer à peu près 1 année. Si vous voulez trouver un nouvel emploi, on va définir la typologie d'entreprise que vous souhaitez atteindre, on va définir évidemment l'emploi que vous souhaitez atteindre, et je vais vous aider à mettre en place une stratégie de recherche d'emploi très ciblée qui comporte à la fois les classiques, c'est-à-dire mise en place du CV, de la lettre de motivation, regarder et prospecter les entreprises, même lorsqu'elles ne mettent pas d'annonce, qui potentiellement pourraient être intéressées par le profil, développement du réseau professionnel, Donc ça, c'est un travail qui peut durer un mois, deux mois, hein, de développer tout ça. Et ensuite, on se prépare aux différentes rencontres. Donc rencontres soit professionnelles lors de salons, soit rencontres directes donc avec les professionnels par un démarchage, mais aussi, bien évidemment, les fameux entretiens d'embauche dans lesquels eh bien, je vous forme, puisque en réalité, quand on va vers un poste, on a en général deux à trois entretiens qui ont des objectifs différents et il faut avoir conscience de ces objectifs pour bien préparer ces entretiens. Donc tout ça, je vous aide en fait très simplement. Et après chaque entretien, on a un débriefing pour voir ce qui a fonctionné, pas fonctionné. L'objectif étant que si ça ne fonctionne pas, eh bien, la fois suivante, ça fonctionne.
D'accord. Est-ce que tu as un délai pour faire tout ça ou tu prends le temps qu'il faut par rapport à la personne ? Il y a peut-être des domaines où ce n'est pas évident de trouver tout de suite.
On prend le temps qu'il faut, mais on se fixe quand même des délais en fonction de la typologie d'emploi que la personne recherche. Donc il y a des emplois où on sait que le marché est très dynamique, donc on sait qu'en un mois, deux mois, on va forcément trouver un emploi. Il y a parfois des carrières où il va falloir un peu plus convaincre les professionnels, les convaincre de façon différenciée. Et dans ce cas-là, bon, ça pourra aller jusque 6 mois de recherche. Mais je garantis le fait qu'on trouve. À partir du moment où, après le bilan, on est d'accord sur un objectif professionnel, c'est que je sais qu'on peut trouver la carrière, on peut amener la personne vers le chemin de sa propre carrière.
C'est quand même assez impressionnant, je trouve, de pouvoir garantir à quelqu'un, voilà, tu suis vraiment ce que je te dis, en tout cas un coaching pertinent, et tu trouves.
Oui, bah, je suis serein parce que les chiffres passés montrent qu'on trouve à partir du moment où la recherche est cohérente par rapport au profil, c'est évidemment, ça. Et aux envies.
Bien sûr.
Donc il n'y a pas de raison de ne pas trouver, en fait. Et je suis tellement serein que je garantis, en fait, mon programme, puisque si au bout de 6 mois, vous n'avez pas de touche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de touche sérieuse, pas d'entretien sérieux. Après, peut-être que l'entretien est sérieux, mais pour X raisons, on n'a pas réussi à décrocher l'emploi, c'est pas grave. Dans les 15 jours, dans le mois suivant, on aura quelque chose. Mais s'il n'y a pas une touche sérieuse, eh bien, j'offre une journée complète de coaching pour vérifier, revalider et s'assurer que l'objectif est atteignable.
Tu as un suivi très, très complet au final. Tu prends vraiment la personne en main de A à Z.
Absolument. Avec le but de lever éventuellement tous les freins qui peuvent éventuellement bloquer en fait, lors des entretiens.
Et des freins dont la personne ne se rend pas forcément compte non plus. C'est bien d'avoir un œil extérieur, surtout.
Oui. Alors, je rassure, ça arrive pratiquement jamais. Parce que entre le bilan et les différents coachings, moi, je me rends compte des freins et on les travaille en fait en amont.
D'accord.
Donc, à aujourd'hui, je n'ai pas eu besoin de mettre en place cette journée puisque avant ça, on parvient à lever les doutes, on parvient à lever les freins.
Est-ce que tu travailles dans tout secteur d'activité ?
Oui, puisque c'est les techniques de recherche, les techniques d'approche, les techniques d'entretien sont toujours les mêmes, quel que soit le secteur d'activité. Il y a des petites différences, mais ça, on peut les travailler ensemble. Après, bien sûr, je ne suis pas plombier, mais c'est la personne qui va se vendre en tant que plombier si elle décide d'être plombier sa carrière.
Bien sûr.
Voilà.
D'accord. Ok. Et une fois que la personne... parce que tu vas loin. Tout à l'heure, tu disais, je vais jusqu'à la fin de la période d'essai.
Absolument.
C'est quand même loin.
Mais le but, c'est de faire en sorte que la personne, lorsqu'elle a trouvé le job et l'entreprise, elle conserve ce job et l'entreprise de ses rêves, qu'elle ne loupe pas sa période d'essai pour un malentendu avec son manager ou avec son employeur. Donc, oui, j'accompagne. Maintenant, il est évident que cet accompagnement est beaucoup plus léger que dans la première partie du programme.
Bien sûr. Qu'est-ce qui peut faire qu'on rate, comme tu dis, sa période d'essai ?
Il peut y avoir des milliers de raisons, mais dans les raisons principales. D'abord, on peut se tromper sur l'emploi ou sur l'entreprise. Alors, avec mon programme, ça n'arrive pas, parce qu'on vérifie en fait sous ces éléments-là en amont. Par contre, l'entreprise, elle, peut mentir. Il arrive que les entreprises vendent un poste alors qu'en fait, elles demandent aux salariés d'occuper un autre poste. Et dans ce cas-là, évidemment, on s'est trompé. Hein. Le casting n'a pas été bon. Après, il peut y avoir, on est dans de l'humain, hein, dans les ressources humaines, on est dans de l'humain, il peut y avoir des blocages au niveau managérial. Il se peut très bien qu'on ne s'entende pas avec son manager direct. Alors, il faut essayer de trouver pourquoi on ne s'entend pas. Est-ce que le manager a lui-même parfois des peurs ou ne vous voulait pas au moment du recrutement, mais ça n'a pas été dit avec son patron. Du coup, il vous le fait payer au moment où vous rentrez dans votre poste. Bon, moi, j'ai vécu des choses comme ça dans mes accompagnements. Ça arrive, et le but de mon accompagnement, c'est de déterminer ces freins-là, ces difficultés-là, pour les lever au plus vite et éviter justement que la période d'essai ne s'arrête.
D'accord. On va juste faire une petite pause musique à nouveau, mais cette fois-ci, c'est moi qui choisis. Alors, on écoute et on en parle après.
If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured, just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti. He's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit, he choked. He's so mad, but he won't give up. No, he won't have it, he knows. His whole back to these ropes, it don't matter, he's dope. He knows that, but he's pro. He's so stagnant, he knows. When he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody, better go capture this moment and hope it don't do it. Lose his health in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose his health in the music, the moment you own it. Taking, make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over. These is all on him, coast to coast shows. He's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows. He's grown farther from home, he's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These fools don't want him no more, he's cold product. They moved on. Next mo who flows, he knows dove and sold nada. So the soap opera is told, it unfolds. I suppose it's old partner, but the beat goes on. That it up, that on. You better lose yourself in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This change what you call rage. Tear this and roof off like two dogs' cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage. But I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5. And I can't provide the right type of life for my family. Cause man, these food stamps don't buy diapers. And it's no movie, there's no Mackay Pfeiffer. This is my life, and these times are so hard. And it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see the thought I caught it between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming on it. Too much for me to want to stay in one spot. Another damn monotony's gotten me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot or end up in jail or shot. Success is my only option, failure's not. Mama love you, but this trail has got to go. I cannot grow old in Salem's lot. So here I go, it's my shot. Feet fail me not, cause maybe the only opportunity that I got. You better lose yourself in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime.
Radio Arengo. Aujourd'hui, une heure avec Luc Van Lerberg. Pour ceux qui prennent l'émission en cours de route, Donc, Luc vient de nous parler de son métier et de son site internet et de ce qu'il fait. Donc, carrière en main, je vous rappelle, carrière-en-main.com. Et maintenant, Luc va nous parler de sa passion. Sa passion, c'est l'écriture.
Oui, qui est une de mes grandes passions depuis que je suis petit. Et plus particulièrement dans l'écriture, j'écris des romans d'heroic fantasy et des romans d'anticipation.
Qu'est-ce que c'est que ça ? Explique-moi.
Donc l'heroic fantasy, c'est un genre littéraire à part entière qui se confond, parfois s'oppose à la science-fiction. Dans les deux cas, on va inventer un monde, un univers complet. Alors pour ceux qui sont des adeptes de la science-fiction, bah, vous connaissez peut-être les grands classiques comme Star Wars, Star Trek. Donc là, on est dans des univers complètement inventés, mais dans lesquels on a de la technologie. Dans l'heroic fantasy, on est plus sur un univers inventé médiéval, dans lequel on peut ou pas trouver de la magie, dans lequel on peut ou pas trouver des espèces ou des animaux un peu bizarres. Enfin, voilà, l'imaginaire, là, on est devant une page blanche et on crée complètement un monde, un système dans lequel on va plonger ses personnages. Dans tous les cas, quel que soit finalement le registre, hein, on est quand même sur des aventures humaines, même si on n'est pas forcément avec des humains, mais humaines au sens où c'est l'aventure d'un héros, d'un personnage, d'où Heroic Fantasy d'ailleurs, on a un héros à la base. On a un personnage qui va évoluer, qui aura besoin d'aide ou pas besoin d'aide, qui va découvrir ou pas son environnement, et on invente une histoire, une intrigue dans ce monde inventé.
D'accord. Et on va parler de ce que tu as déjà réalisé. Tu as réalisé une trilogie, enfin tu as écrit une trilogie déjà. On peut dire ça, trilogie ?
Oui, alors c'est une trilogie, donc trois volumes, trois romans d'une seule et même saga, donc les Chroniques d'un esprit vagabond, dont le premier tome s'appelle Artamios, le deuxième tome, Le Sage des Courants, et le troisième tome, Le Temps de Dieu. Donc on a trois histoires qui montrent l'évolution d'un personnage qui s'appelle Artamios, d'où le titre du premier tome éponyme. Artamios, qui est un jeune homme qui va se réveiller au départ de l'aventure dans une forêt. Il est amnésique, il est visiblement tombé d'un arbre. Il ne se souvient de rien et surtout, au-delà de ne pas se souvenir, il ne reconnaît pas son environnement. Et donc, c'est un point de départ, relativement classique d'ailleurs en littérature, qui va permettre au lecteur de découvrir l'univers que j'ai créé en même temps que le personnage. Et on va vite se rendre compte que ce personnage est pourchassé par les humains, mais pas que, par aussi d'autres peuples, pour une raison qu'il va falloir découvrir dans le premier tome, que je ne dévoile pas évidemment ici, qui est très complexe. Et ce sera le fil rouge, en fait, sur les trois romans. Donc chaque roman, en fait, a une intrigue propre, qui est, c'est une trilogie qui a été imaginée en escalier. Donc à chaque livre, on a une intrigue, donc un début et une fin. Mais on a ce fil rouge sur qui est ce personnage et pourquoi on le pourchasse, qui se déroule sur les trois romans. Et donc, on a évidemment la solution, la réponse, en fin de troisième roman.
Donc, on est obligé de tout lire.
On n'est pas obligé de tout lire parce que chaque livre a son intrigue. En tout cas, le premier tome peut se suffire en lui-même. Mais évidemment, on a envie de savoir. Donc, en général, on prend le deuxième. C'est très difficile de rentrer dans le roman en commençant par le deuxième ou le troisième tome, parce que comme l'intrigue est en escalier, évidemment, il vaut mieux toujours commencer par le premier, où on découvre le monde, on découvre le début de cette intrigue. Le système de magie que j'ai mis en place, qui est un système un tout petit peu particulier et que j'ai voulu normer, c'est-à-dire qu'il y a une logique intrinsèque, même si pour les esprits les plus raisonnables, la magie n'existe pas. On peut néanmoins imaginer un système dans lequel la magie existerait et répondrait à des codes, à des règles, et donc ne permettrait pas à un personnage de sortir un lapin de son chapeau quand ça lui chante, ou de sortir un pouvoir quand ça lui chante. Il y a un système que j'ai imaginé derrière, et qui est intéressant parce qu'il est assez fixe et fermé pour rendre la compréhension de ce système facile pour le lecteur et logique, et en même temps assez ouvert pour qu'il s'adapte en fonction des différents peuples. C'est-à-dire que chaque peuple aura une traduction de la magie, un petit peu comme on a une traduction d'une langue, différente en fonction de critères physiques, psychologiques, d'organisation sociale.
D'accord. Bah pour avoir lu les deux premiers, j'avoue, je n'ai pas lu le troisième parce que je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas trouvé. Donc, il va falloir quand même que je termine.
Je te l'offre. J'en ai à la maison.
C'est une écriture que je trouve très... D'abord, je trouve très bien écrit. Mais je trouve que c'est très prenant. C'est-à-dire que quand on commence, on a effectivement envie de savoir la suite.
En fait, j'ai mis en place le système général, donc l'ensemble des peuples. L'intrigue générale a été écrite en amont. mais dans ma forme d'écriture, à l'intérieur, je découvre en même temps que le lecteur, c'est-à-dire que j'écris et j'invente un certain nombre de choses en même temps que j'écris. D'accord. Et donc pour moi, même si je sais où je veux aller à la fin, finalement, j'écris comme je lis le livre, c'est-à-dire je découvre, je réinvente, je retransforme, etc.
D'accord.
Ça crée une dynamique, au livre, puisque moi-même, je n'ai pas envie d'écrire et de m'ennuyer en écrivant.
D'accord, bah, ça se ressent en tout cas, parce que c'est vraiment très prenant. Et combien de temps on met pour écrire un livre? Tu vas me dire, ça dépend, bien sûr.
Alors, ça
combien de temps t'as mis pour écrire ces trois livres et séparément les uns après les autres? Est-ce que c'est long? Est-ce que ça vient vite? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que...
Alors, d'abord, c'est un plaisir de lecture, d'écriture, pour moi, au départ. Donc, Artemis, je l'ai écrit et j'ai commencé à écrire ce livre en me disant, je raconterai ça à mes enfants. Donc, j'avais une histoire en tête, parce qu'elle prenait du sens, elle s'étoffait au fur et à mesure de mon imaginaire, donc j'avais besoin de l'écrire. Et donc, je l'ai écrit peut-être en 5 ans, parce que j'écrivais le week-end, un petit peu, en vacances, un petit peu. Et donc, par petits bouts, au moment où je sentais le besoin de m'arrêter de travailler et d'être dans une zone de plaisir.
D'accord.
Donc, évidemment, ça prend du temps, parce que c'est 5 années. Maintenant, en réalité, ce n'est pas le temps d'écriture. Le tome 2 et le tome 3, à partir du moment où j'ai su que j'étais édité, j'ai écrit le tome 2 en 2 ans et le tome 3 en 1 année.
Oui, d'accord. Sur le premier, tu savais que tu serais édité?
Non,
c'était
non,
pas
non.
Le, à
non,
la base,
non, du
c'était...
Tout.
D'accord.
C'était, l'objectif n'était pas de se faire éditer. Et bien sûr, j'ai été édité aussi un petit peu poussé par ma compagne qui m'a dit « c'est dommage d'avoir écrit ça et de ne pas tenter ta chance ». Donc, on a pris contact avec un éditeur, avec plusieurs éditeurs, mais il y en a un qui a lu le livre et qui m'a tout de suite rappelé en disant « on publie ». Donc j'ai été très heureux de ça. C'est un éditeur qui n'existe plus, qui s'appelait Asgard Midgard Locomodo, qui a fermé il y a maintenant de ça 7 ans. Donc mon premier livre, Artemios, a été publié il y a 10 ans. Et l'ensemble des livres donc de la franchise, on peut dire ça comme ça, a été repris aujourd'hui par Le Héron d'Argent. Et ça continue à être publié jusque 2021 sous l'étiquette Le Héron d'Argent. Et ensuite, je ne sais pas, puisqu'en fait, le livre arrive en fin de vie, entre guillemets. En fait, la trilogie a plus de 10 000 exemplaires, hein, arrive en fin de vie. Donc, je dois trouver un nouvel éditeur pour mon prochain livre.
Mais voilà, on lance l'appel.
Voilà.
C'est un beau score, ça, plus de 10 000, bien.
Pour de l'heroic fantasy, c'est... Ouais. Et de l'écriture amateur, c'est très bien.
Et alors, ton nouveau projet, parce que je sais que tu es sur un nouveau projet...
Oui,
projet.
Alors, qui est plus qu'un projet, puisque là, aujourd'hui, le livre est écrit, il est en fin de relecture. Donc, on est en train de retravailler les 3-4 petits passages qui doivent être retravaillés. Quand je dis « on », c'est parce que je travaille avec une relectrice, et donc, j'essaie de faire les choses de façon un peu professionnelle. Donc, elle me fait des remarques, et évidemment, j'en prends note et je retravaille un tout petit peu, 2-3 petites choses.
Donc, je fais une parenthèse, une relectrice, elle ne va pas juste relire pour être sûre qu'il y a un sujet, un verbe, un complément, et qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. C'est vraiment, elle prend part, en tout cas par ses remarques, peut-être qu'elle t'explique que là, c'est un passage où on ne comprend pas bien, ou des choses comme ça.
Moi, je lui demande. Je pense que tous les auteurs le font pas forcément, mais j'ai travaillé d'abord avec un comité de relecteurs, donc des amis qui ont bien voulu relire mon livre. Donc j'ai cinq personnes qui ont lu en amont, il y a maintenant 1 an, le livre, pour me faire un retour sur l'histoire. Pourquoi j'ai besoin de ça? Parce que moi, je suis dans l'histoire, donc j'ai l'impression que c'est clair pour moi. Mais pour un lecteur qui ne connaît pas l'histoire, qui découvre le monde que j'ai créé, il faut que les choses soient parfaitement claires. Et que le lecteur ne bute pas sur une description ou sur quelque chose qui est clair dans ma tête, mais qui, peut-être dans l'écriture, peut être oublié par le lecteur. Donc il y a des choses qui sont... Enfin, des remarques qui sont intéressantes de la part de relecteurs. Donc j'ai un petit comité de relecteurs qui m'avait déjà fait un certain nombre de retours. Et je travaille avec une relectrice professionnelle pour le dernier passage, qui bien sûr retravaille avec moi éventuellement les coquilles qui peuvent se glisser dans un livre qui peut faire 300, 400, 500 pages. Mm-hmm. Mais je lui demande aussi son avis, son point de vue sur les passages, sur la dynamique, sur la clarté de certaines descriptions.
Oui, c'est ça, du début jusqu'à la fin du livre, on ne peut pas perdre le lecteur en cours de route, sinon il ferme le bouquin, il va voir ailleurs.
Oui.
Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein.
Oui, oui, c'est ça. C'est l'idée, c'est d'offrir une histoire qui soit très plaisante, sur laquelle le lecteur ne bute pas et a envie, page après page, de continuer et de terminer évidemment la lecture avec une fin qui soit digne d'un livre. Quoi.
D'accord, et c'est un seul livre ou c'est encore une trilogie?
Alors, ce ne sera pas une trilogie. Pour l'instant, je suis dans le tome 1, il y aura forcément un tome 2, parce qu'il y a là aussi un fil rouge que je n'ai pas pu terminer sur le tome 1. Et le monde que j'ai créé me permet en fait d'aller au-delà d'un seul tome. Je ne sais pas s'il y aura un troisième tome.
D'accord. Est-ce que c'est une écriture identique à Artamios, le premier, ou est-ce que c'est complètement différent? Ou en tout cas, au niveau du monde créé, c'est alors, complètement différent?
Oui, complètement, puisque... oui. Alors, en fait, Artamios, c'est de la pure héroïque fantasy. Donc, d'accord, on est vraiment dans un monde médiéval dans lequel il y a de la magie qui est présente, il y a des castes de magiciens qui, d'ailleurs, dans Artamios, dirigent chacun des peuples. Donc, c'est eux les hommes politiques, en fait, de chaque peuple. C'est eux qui ont le pouvoir. Donc, la magie est importante. Là, dans mon prochain roman, qui s'appellera normalement La Caste des Éoles, on est plus dans un roman d'anticipation. Donc on est sur Terre, dans un monde post-apocalyptique, donc on est sur un registre un tout petit peu différent. Pourquoi post-apocalyptique? Parce que j'imagine un monde dans lequel, qui sera les conséquences de nos modes de vie actuels, avec réchauffement climatique, pollution, etc. Alors le but, c'est pas de parler de ça, mais ça me permet d'inverser un certain nombre de mythes. J'en prends un pour l'exemple. Les peuples qui composeront donc le monde des Éoles verront notre civilisation comme celle des Atlantes. Donc j'inverse les mythes.
D'accord. Ce que je te propose, c'est qu'on continue de développer cette partie-là, donc juste après une musique que tu nous as concoctée à nouveau dans ta playlist. C'est David Bowie, c'est ça?
David Bowie, Life on Mars.
Allez, on écoute. It's a god-awful small affair. To the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the low man, leaning on the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? Tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Blue Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a saddening bore, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. Take a look at the low man, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? Donc, juste avant David Bowie, ce merveilleux titre, tu nous parlais de ton nouvel ouvrage.
Oui, La Caste des Éoles, donc, qui est un roman que je termine donc, en écriture et qui sera publié, je l'espère, dans le courant de l'année 2021 ou 2022. 2022 plus probablement.
Je coupe tout de suite parce que j'ai deux questions.
Ouais.
Donc, tu cherches un éditeur ou est-ce que tu l'as déjà trouvé? Et la deuxième question, quel est le genre, justement, de ce nouveau livre?
Alors, première question, la question de l'éditeur. Donc, mon éditeur qui a donc a repris Artamios, donc l'ensemble de la trilogie et qui l'a exploité avec moi pendant 8 ans, change sa ligne éditoriale. Donc, il arrête l'Heroic Fantasy. Donc, il ne pourra pas me reprendre pour un prochain roman puisqu'il y a une logique chez les éditeurs de ligne éditoriale.
Mm-hmm.
Donc, il part sur des livres beaucoup plus enfantins.
D'accord.
C'est pour ça que l'exploitation d'Artamios, d'ailleurs, de la trilogie va s'arrêter, mais sera peut-être reprise, d'ailleurs, par un prochain éditeur. Et donc, oui, je suis en recherche, là, d'une maison d'édition qui veut bien m'accueillir pour de l'Heroic Fantasy.
Deuxième appel.
Ou de la fantaisie d'anticipation. Donc, on est sur un monde imaginaire, mais cette fois-ci, on est sur Terre. Donc, on imagine ce qui pourrait se passer dans l'avenir à partir de notre situation présente. Mais on est quand même dans de la fantaisie, puisque je m'autorise beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de digressions. Il y a une part de mystère, un petit peu de magie, alors beaucoup moins que dans Artamios, parce qu'on reste quand même sur Terre. Mais il y a des petites choses qui sont disséminées, saupoudrées à droite et à gauche, et qui permettent d'être quand même dans de la fantaisie.
D'accord. Et le personnage principal, comment s'appelle-t-il? Qui est-il? Sans rien dévoiler. Non, bien sûr.
Alors,
il faut qu'on le lise.
On va suivre la jeunesse et le début de l'âge adulte d'un jeune homme qui s'appelle Gambi et qui naît au sein de la caste des Éoles, qui est la caste pas dirigeante, mais dominante de ce monde dans lequel les peuples sont coupés les uns des autres. Alors, par un moyen que vous découvrirez dans le livre, mais il n'y a plus de lien entre les différents peuples. Donc, on est devant des peuples qui sont atomisés, c'est-à-dire que là où en France, on est 66 millions, en fait, la France ne représentera plus peut-être que 5 ou 6 000 personnes. Vous voyez, donc, on est véritablement sur une éradication presque de la population mondiale, avec des peuples qui sont repliés sur eux-mêmes, coupés, même géographiquement les uns des autres.
Aucune interaction?
Alors, pas aucune interaction. Il peut y avoir des interactions, mais elle se fera grâce aux Éoles. C'est pour ça que les Éoles deviennent dominants. Ils ont le pouvoir, en fait, de lier les peuples d'une certaine manière. Et l'intrigue principale, c'est une grande question presque philosophique, qui est le combat entre deux façons de voir le monde. Est-ce qu'il faut faire confiance dans l'humanité et donc dans les hommes, ou est-ce qu'il faut les diriger parce que l'homme est l'ennemi de l'homme? Et donc, au sein des Éoles, ces deux courants s'opposent.
Mm-hmm.
Et Gambi devra faire le choix entre ces deux courants de pensée.
Et d'où tires-tu ton imaginaire? Parce que tu crées un monde dans les trois premiers, tu en recrées un complètement dans ce nouvel ouvrage. D'où tires-tu ton imagination? Tu disais que c'était depuis que tu étais tout petit.
Mm. Oui, alors, c'est une question, je pense que je ne sais pas s'il y a un auteur ou un créateur a déjà répondu à ça. Comment, pourquoi on crée, comment ça vient. Je pense qu'à la base, il y a une forme de curiosité. Pour moi, il y a aussi une forme de besoin de liberté. Donc l'écriture, c'est une façon de sortir du quotidien, sortir d'une rationalité qui est importante pour moi, qui est nécessaire évidemment dans la vie, mais qui est parfois un peu pesante. J'ai aussi envie et besoin d'une page blanche et d'une forme de créativité qui presque sans limite.
Ce que tu mets dans l'écriture, c'est ce que nous, on met dans la musique, par exemple.
Oui, ou qu'un peintre mettra dans sa peinture.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut sublimer le présent, sublimer le quotidien. Et au-delà de ça, au-delà de ce premier mouvement, parce que finalement, le fait d'écrire, c'est ça et autre chose. Il y a ce besoin de liberté et il y a aussi parfois le besoin de répondre à des questions pour lesquelles il n'y a pas de réponse. Je parlais par exemple de la magie dans Artamios.
Mm-hmm.
Concrètement, c'est quoi la magie? En fait, si on regarde le monde d'aujourd'hui, prenez un homme du Moyen-Âge et plongez-le dans notre monde, il dira que notre monde est magique.
Bien sûr.
Parce que tout ce qu'on ne peut pas expliquer est magique. Et donc, il y a derrière tout ça cette curiosité pour ces questions auxquelles on ne peut pas répondre. Qu'on met ensuite, en tout cas, ma façon de les exprimer, c'est aussi de les mettre dans des livres.
D'accord. J'ai encore une question qui m'intrigue et que j'ai toujours voulu poser à un écrivain. Comment fait-on pour... on prend ton nouvel ouvrage, il y a un bouquin, on va dire, pour l'instant, en tout cas. Comment fait-on pour écrire un livre? C'est-à-dire, tu pars d'une idée, tu la construis, en gros, tu fais un squelette et ensuite tu combles, ou alors tu écris tout au fil de l'eau, on va dire, ou alors il y a une autre technique, je ne sais pas. Comment fais-tu, toi, en tout cas?
Le premier moteur, ça reste quand même le plaisir. Je pense qu'un écrivain qui écrit pour écrire et pour être publié, ça devient vite un mauvais écrivain. On écrit parce qu'on a envie, de façon irrépressible, de dire ou d'expliquer quelque chose. Donc moi, c'est juste un plaisir de me retrouver avec moi-même devant ma page et puis de créer des histoires, créer des mondes. C'est quelque chose qui, pour moi, est facile et très, très positif et joyeux, en fait, dans ma façon de voir les choses. Après, j'ai plein d'histoires qui me trottent dans la tête. Il y a une forme de curiosité sur plein de choses, sur plein de sujets, la science, la philosophie, l'histoire, etc. Donc tout ça, ça alimente de façon tout à fait indirecte la créativité. Et à un moment donné, tout ça se cristallise autour d'une ou deux questions, autour d'un ou deux thèmes. Par exemple, pour la caste des Éoles, un jour, en retravaillant la question des Atlantes, que j'avais travaillé il y a très longtemps quand j'étais étudiant et puis même enfant, parce qu'on s'intéresse aux Atlantes, et puis un jour j'ai découvert que les Atlantes étaient un thème abordé par Platon, donc on se dit, tiens, un philosophe qui aborde la question des Atlantes, alors que ça, a priori, c'est un mythe, donc on est dans de l'imaginaire aussi. Pourquoi ? Et pareil, là, j'ai lu la Bible, j'ai regardé un petit peu des choses, des mythes qui sont communs à la Bible, au Coran, à d'autres religions, monothéistes, non monothéistes, etc. Il y a des choses qui sont un peu communes à l'ensemble de la Terre. Et je me suis dit, mais finalement, pourquoi toutes ces choses seraient juste des mythes? Pourquoi ce ne seraient pas des prédictions? Et de là est venue la caste des Éoles. C'était un de me dire, le mythe des Atlantes, de cette société ultra mécanisée, ultra avancée, très scientifiquement en avance finalement sur le temps des hommes, pourquoi le déluge qui la submerge et qui la fait disparaître serait un mythe du passé? Pourquoi ce ne serait pas une prédiction des hommes sur ce qui allait arriver? Et voilà de où est partie l'idée. Après, je n'entends pas démontrer quoi que ce soit. C'est juste une idée.
D'accord. Et techniquement, tu crées ton ossature de roman de A à Z. Tu fais un chemin de fer. Moi, j'appelle ça un chemin de fer, tu sais, une espèce de plan. Comment tu fais?
En fait,
tu as tout en tête ou
non, je n'ai pas tout en tête. J'ai les ingrédients principaux en tête et j'ai le début et la fin.
D'accord.
Donc, j'ai les thèmes que je veux aborder. Donc, dans la caste des Éoles, donc, sont abordées la question de l'inversion de certains mythes. Donc, j'aborde aussi la question des alchimistes. J'aborde la question de la politique, de la démocratie, des dictatures, des systèmes finalement politiques qui dirigent les hommes et pourquoi un système est dans certains cas mieux qu'un autre. Donc, ces thèmes-là, je les aborde. Je sais que je veux les aborder. Je sais à peu près comment je veux les aborder. Je connais mon début, je connais ma fin. Et après, après, je me lance et au fur et à mesure, je crée des personnages parce qu'il y a un besoin pour l'histoire. Parfois, je crée des personnages juste parce que j'ai un trait de caractère dans un personnage qui m'intéresse et j'ai envie de le mettre, j'ai envie de le faire vivre. Voilà, j'ai un fil conducteur, mais qui n'est pas un fil conducteur complètement tracé avec chaque chapitre ayant un objectif, etc.
C'est
à un moment donné, l'écriture... L'écriture vit, mais aussi parce que je travaille dans l'heroic fantasy. Lorsqu'on fait peut-être dans d'autres registres, on ne peut pas se permettre ça.
C'est ce qui donne un peu ce côté fluide, je pense, à ton écriture, et en tout cas, ce que l'on ressent à la lecture.
Peut-être, ça c'est le lecteur qui peut répondre.
Je te réponds.
En tout cas, moi, en écrivant, je ne me suis pas ennuyé, donc ça va.
C'est l'essentiel. Et donc, tu cherches un éditeur, et si tu trouves, donc, on a dit sortie 2022
J'espère, oui, 2022, ça pourrait être bien.
Bon.
Et si un éditeur veut reprendre La Vie d'Artamios, qui continue à se vendre d'ailleurs, hein, plutôt bien, pourquoi pas?
Justement, La Vie d'Artamios, tant qu'il est encore en vente, où est-ce qu'on peut le trouver?
Alors, Le Héron d'Argent, donc il y a un site internet, ou chez votre libraire, il suffit simplement à votre libraire de commander le livre s'il n'est pas déjà dans ses rayons. Hein, mais Le Héron d'Argent est référencé chez beaucoup de libraires, mais pas tous les libraires. Mais le libraire a tout à fait l'occasion d'appeler Le Héron d'Argent et de commander les livres.
Alors c'est bon à savoir parce que j'en profite pour faire un peu de pub, après tout. On a une très très belle librairie ici qui s'appelle La Marge à Ajaccio, puisque je rappelle à nos auditeurs que même si on est écouté dans le monde entier, on est quand même en Corse. Et donc sur Ajaccio, on a une très belle, mais vraiment très très intéressante librairie. J'adore m'y perdre parce qu'il y a énormément de bouquins et ce sera l'occasion de leur demander s'ils l'ont et s'ils ne l'ont pas. Ils vont le commander, comme ça on pourra faire un peu de communication autour de ça. Tu veux rajouter quelque chose sur ton dernier ouvrage? On a fait le tour, on a tout dit?
On a tout dit. En fait, on a dit beaucoup de choses. Le problème, c'est que c'est un ouvrage qui n'est pas édité, donc je ne peux pas dévoiler grand-chose, sinon
c'est
ce que j'ai dévoilé. Mais c'est... en tout cas, j'ai eu un véritable plaisir à l'écrire. Et je pense que ceux qui aiment l'héroïque fantasy, qui n'est pas trop magique, mais qui est avec une véritable aventure humaine, avec des vrais défis et aussi un petit peu de questionnement sur ce qu'est l'humain, vous trouverez votre compte.
D'accord, tu parles beaucoup d'humain.
Oui.
Ça te tient vraiment à cœur, visiblement, le côté humain dans tout ce que tu fais. Puisqu'on en parlait tout à l'heure dans la première partie, on le retrouve ici avec tes livres.
Ouais, alors ma limite, c'est que je suis humain. Et donc, je parle de ce qui est le plus évident pour nous. Et puis, quand je parle de l'humain, c'est pas l'homme, hein, c'est l'humanité,
sûr,
c'est la nature, c'est la terre, c'est la vie, c'est tout ça, quoi. Donc oui, je parle de l'humain. Et ma non-limite, c'est justement l'imaginaire. Donc, allier les deux, c'est pas mal.
Bon, écoute, je te remercie infiniment, Luc, déjà d'être venu nous voir et d'avoir répondu à mes questions. On mettra sur le site toutes les informations pour trouver ton site internet déjà et te contacter. Donc, on rappelle Carrière en main.
-en-main.com.
Voilà, pour le site internet. Ton livre, on rappelle l'éditeur pour l'instant,
donc,
là où on peut le trouver.
Le Héron d'Argent.
Et dans toutes les bonnes librairies.
Voilà. Tout à fait.
Ça, c'est une chose. Tu nous proposes une dernière chanson pour la fin de cette émission.
Envole-moi de Jean-Jacques Goldman, chanson française.
C'est très éclectique. On part de Cachemire, en passant par David Bowie, et maintenant Envole-moi.
Oui,
oui. Tu as des
goûts
très éclectiques.
Oui, très. Oui, il faut de la curiosité dans tout. et puis Envole-moi, je trouve que c'était une musique qui a bercé mon enfance et qui est pas mal, puisqu'on parle d'Heroic Fantasy, et l'Heroic Fantasy, c'est un petit peu de faire envoler les esprits et l'imaginaire vers quelque part.
Et puis très bon compositeur,
il faut
le dire. Juste, je voulais préciser, avant de terminer cette émission, tu nous as parlé de Claire Labbé tout à l'heure.
Oui.
Je te signale et je t'informe, je ne sais pas si tu étais au courant, mais je te le dis, on la rencontre tout début septembre et elle fera partie de la prochaine émission, Une heure avec.
Ouais, ce sera une très bonne émission connaissant le personnage.
C'est parfait. On se donne donc rendez-vous, bien évidemment, pour toutes les émissions suivantes, mais surtout celle-là, Une heure avec, ce sera avec Claire Labbé et... Aujourd'hui, nous recevions Luc Van Lerberghe. Merci Luc, à bientôt.
Merci, à bientôt.
Minuit se lève au détour. Les voix se taisent et tout devient aveugle et sourd. La nuit camoufle pour quelques heures la zone sale et les épaves et la laideur. J'ai pas choisi de naître ici entre l'ignorance et la violence et l'ennui. Je m'en sortirai, je me le promets, et s'il le faut j'emploierai des moyens légaux. Entre la soumission, la peur ou l'abandon, je m'en sortirai, je te le jure. À coups de livre, je franchirai tous ces murs.